chapitre 24. Je me réveillais sans violence, au milieu d'une literie chiffonnée et de la chaleur écrasante. Le radio-réveil indiquait 17h21. 7 heures d'un sommeil au plomb bien trempé, le tout sans somnifères, antidépresseurs et trains qui vrombissent. Un miracle. Après avoir ingurgité mon traitement antipaludéen, je me traînais sous la douche, où une eau tempérée me fouetta l'échine. Une énergie nouvelle connecta mes premiers neurones, et dans cette tiédeur apaisante, je ressentis une forme de bien-être presque oubliée. Je m'attardai sous le jet une bonne demi-heure. Le soleil glorifiait la terre par la fenêtre du salon, flattant mes belles locomotives d'un voile doré. Je versai une goutte d'huile dans les tendeurs des vapeurs vives, lustrai leur biel d'un coup de chiffon précis avant de les élancer sur les rails. Le week-end, j'aimais à m'occuper d'elle, avec ses manières de gosse, jusqu'à les entendre siffloter de plaisir. Si Héloïse pouvait voir ça. Armé d'un paquet de biscuits, d'un bol de café, de papier et des photos de l'intérieur de la courtisane, je m'installais au cœur de cette effervescence métallique, entouré par les tunnels, les montagnes, les prés animés par leurs vaches tranquilles. Avec minutie, j'étalais les pièces importantes de l'enquête. Le message, gravé dans l'église. Les photos des tisserands dans leur vie et dans leur mort. Les gros plans sur les scarifications de Maria, sur son visage aussi, piégé dans la terreur des dernières secondes. Le poster du déluge avec ses 52 identités, les fusains. Puis j'inscrivis en grand sur des feuilles séparées tout ce qui me venait à l'esprit. Déluge, apocalypse, Bible, châtiment, importance du 7. 7 sphinx, 7 trompettes, 7 fléaux. Je tirais des flèches, dressais des lignes, entourais des termes, posais des interrogations. Petit à petit, l'espace se couvrit de mes écritures, mes ratures, mes allers-retours de pensée. Mon cerveau carburait à la drogue pure du bon flic. Je portais ma tasse de café aux lèvres, mais stoppais brusquement mon mouvement. « Tu devras te méfier de tout », avait averti le black aux cheveux de spaghetti. Je m'emparais d'un autre papier, notais « La petite, la chambre 7 », puis bus mon petit noir d'un trait. Mon attention se focalisa alors sur les dizaines de dessins que m'avait envoyés par email le technicien. Le coup de patte était gracieux, ce salopard ne manquait pas de talent. Mais ces assauts de mines étaient horriblement macabres, tournés vers la souffrance et le repli. On sentait sur le trait la pression des phalanges, la tension d'une main mauvaise. On devinait même, à certains endroits, les pointes de crayon brisées par l'insistance. Après tout, ces illustrations ne représentaient que la mise à plat d'un esprit malade. Très vite, des thèmes récurrents surgirent. Le sombre du ciel, gonflé de nuages déchirés, la présence des insectes qui se disputaient soit le thème principal, des mouches butinant entre les côtes d'un squelette, des fourmis dans les entrailles de deux cadavres en décomposition, ou qui apparaissaient en second plan sur une fenêtre, un drap, une ampoule. Il y avait aussi ces deux hommes soudés par la tête, avec leurs doigts crochus, leurs dents pointues, martyrisant un enfant recroquevillé qu'on ne voyait que de dos. Ce môme. Pouvait-il s'agir de l'assassin ? D'autres croquis représentaient une très jolie femme, à la chair pure et d'un blanc pieux, mains et pieds entravés par des cordes, reliées aux extrémités d'un vieux lit en fer. Sur son sexe rasé, le tatouage d'un nœud, une espèce de nœud marin, et des multitudes de plaies sur sa poitrine, en forme de croix, alignées comme des marques sur un calendrier. Un corps stigmatisé. Chaque reproduction de cette captive présentait des similitudes. Chambre sinistre, privée de fenêtres, au plafond bas, très bas. Seule l'expression changeait, virant de la colère à la terreur et de la terreur à la tristesse. Jamais une once de joie, noirceur et ténèbres. Je m'enfilai 3 ou 4 biscuits, fis rouler ma nuque. Je vieillissais, mes jambes s'endolorissaient encore des jours précédents. La traque du Mexicain, puis celle dans Axo, sans oublier les kilomètres dans la forêt à se tordre les chevilles. Oui, je vieillissais et je n'osais imaginer la tristesse de ma vie dans quelques années. Sans compagne, enfant ni petits-enfants. Un bien lugubre avenir. Des minutes. Des minutes à me souvenir d'elle. Suzanne, Héloïse. Impossible d'obtenir des images claires, silencieuses. À chaque fois, le crissement des freins, leur bouche hurlante. Seigneur. Une larme. Retour aux esquisses que je parcourus encore et encore. Un détail m'interloqua soudain, un détail que je n'avais pas distingué jusque-là. Je plissai un peu les yeux, découvrant à l'arrière-plan, derrière le lit de la femme attachée, une glace renvoyant un visage très flou, tout juste suggéré. Un visage enfantin, un môme tapis dans l'un des coins de la pièce. Le sel de l'excitation gagna mon palais. Je fouillais dans les autres planches, mes pupilles se contractèrent, dissociant le blanc du noir, le visible de l'évoqué. Comme une illusion d'optique, la figure apparut encore, très, très habilement dissimulée. Dans le carreau d'une fenêtre fondue parmi les nuages agités, puis ici, réfléchi par le marbre d'un caveau, et là de nouveau sur la surface d'un lac où s'écrasait une cascade. Jamais un regard direct, franc, parfaitement visible. À chaque fois, des reflets cachés. Ses yeux de gosse lui appartenaient, ses fusains ramenaient à la surface ses traumatismes passés. Aujourd'hui comme alors, le tueur ne supportait pas qu'on le regarde en face. Les posters lacérés. Viviane, morte avec les paupières bandées. Sa fille, violée d'eau à son agresseur. Le miroir installé au plafond de la cale. Les dessins. Plafond bas, caveau, squelette, insecte. L'enfermait-on, gamin, dans un lieu qui le terrorisait? Une cave menaçante avec des araignées, un placard où vibraient mythes et moustiques? Pourquoi cette présence féminine ligotée? Que signifiaient ces blessures en forme de croix sur sa poitrine? Était-elle battue, maltraitée? Et que dire de ces représentations, celles des deux hommes à la tête collée, pointant leurs dents menaçantes sur un bambin recroquevillé? Qu'avait subi le garçonnet pour que l'adulte ôte si cruellement ses vies? Un enfant. Peut-être ne fallait-il pas fouiller le présent, mais le passé. Je repris les notes concernant les Tisserands, la clinique d'évaluation de la dangerosité à Paris. 20 années à côtoyer des milliers de malades. 20 années. Il fallait pousser nos recherches bien plus en amont, remonter à la source, lorsque l'assassin était tout jeuneau ou adolescent. Je parcourus à nouveau le dossier des deux médecins. Avant Paris, Grenoble. Psychothérapeute dans un hôpital psychiatrique. Aucune info là-dessus, rien. Je traçai un gros point d'interrogation rouge en plein milieu de la feuille. Je fis craquer mes os carpiens, avalai quelques biscuits. Le meurtrier se rapprochait de plus en plus, son souffle glissait, là, sur chaque vertèbre de ma colonne. À travers son guet pictural, le monstre m'observait. Un bruit derrière, la cuisine. Je m'y précipitais, rien. Fenêtre ouverte, minot dans la cour, chien qui aboie, et personne sous la table. Tasse de café renversée au milieu des rails, hérissement de poils. Mais non, c'est toi qui l'as culbuté en te levant brusquement. Comment serait-elle entrée? Tu as fermé à clé. Je furetai dans l'appartement par précaution, puis retrouvai ma position de réflexion. Mon cœur battait un peu plus vite dans ma poitrine, mon front libérait la chaleur de mon corps. Quant à mes doigts, je les glissai entre mes jambes. Puis je démarrai les trains électriques, bien plus bruyants que les vapeurs vives. Ce chahut coutumier me rassura. Je me replongeai dans le texte gravé en haut de la nef, en isolai le dernier point obscur. Alors, au son de la trompette, le fléau se répandra et, sous le déluge, tu reviendras ici, car tout est dans la lumière. Ma langue s'enroula sur mes lèvres. C'était subtil, très subtil. Effectivement, tout était dans la lumière, celle qui avait permis de trouver, sous le déluge, les 52 identités. Mais pourquoi revenir ici, dans l'église? Pour y dénicher une piste dissimulée? L'entomologiste avait été formel, le confessionnal avait été passé au peigne fin des UV. Aucune prose à l'encre invisible, hormis des taches de phéromones sur Viviane Tisserand. Le clerc avait vu juste sur la péniche. S'il n'y avait pas de texte sur les lieux des crimes, pourquoi les papillons? Où fallait-il chercher dans ce cas? Dans la clarté des vitraux, derrière le tympan? Ou alors... L'Apocalypse est un texte de code secret, de messages cachés. Tout est en profondeur, derrière les mots. Avait dit Paul Legendre. Tout est derrière les mots. Mon cœur partit au galop. 20 secondes plus tard, mes pieds fous dévalaient les étages. Il me fallait une échelle, une très grande échelle, ainsi qu'une lampe à ultraviolet. Parce que tout était inscrit au sommet de la colonne fissurée, dans la maison de Dieu, depuis le début. Tu reviendras ici, car tout est dans la lumière. Et par 12 mètres de haut, sous les arches puissantes de l'église d'ici, un nom apparut sous la lumière ultraviolette. Un nom inconnu, barrant l'avertissement initial en une grande diagonale blanche. Vivian Malborne.